France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le panorama par Nadine Vasseur. La chronique poésie de ce jour-là était dédiée à un auteur peu connu. Il s'agit d'Olivier Laronde, auteur d'un livre, Les barricades mystérieuses, paru en 1946. Nous entendrons sa voix, un document rare. Olivier Laronde, un poète que l'on a pu rapprocher de Lautréamont, pour son côté étrange et vociférateur, d'Arthur Rimbaud pour ses images, ou encore d'Alfred Jarry. La suite de la chronique est dédiée aux chansons d'André Ardelais et à Jean-Pierre Dupré, autre grand poète mort jeune, comme Olivier Laronde et ami d'Antonin Artaud.
Bonjour, le panorama jusqu'à 13h40, réalisé aujourd'hui par Brigitte Bouvier avec Roland Alagnès et Olivier Loridan à 12h45. Ce sera les Beaux-Arts et tout de suite la poésie et la littérature française avec des livres de André Ardelais, Olivier Laronde et Jean-Pierre Dupré, trois noms méconnus ou mal connus de la littérature française, oubliés plutôt puisqu'à l'époque ils avaient été reconnus par des gens aussi célèbres que Jean Genet pour le premier, André Breton pour les autres. Pour parler de ces livres, nous sommes en compagnie de Gilles Gourdon, Lise Andriès et Michel Biglowski. Commençons par Olivier Laronde, dont les éditions de l'Arbalète viennent de rééditer Les barricades mystérieuses, un ouvrage qui a été publié pour la première fois en 1946 par ces mêmes éditions de l'Arbalète qui fêtent d'ailleurs cette année leur 50e anniversaire. Alors on peut commencer par dire un mot tout de même de ces éditions qui sont importantes puisqu'elles ont publié des noms aussi célèbres aujourd'hui que Jean Genet, que Antonin Artaud, aussi, enfin Jean-Paul Sartre. Ça c'était dans la revue, puisque l'Arbalète a d'abord été une revue entre 40 et 48. Oui, Michel Biglowski.
Ce sont des éditions malheureusement pas très connues, mais qui ont publié effectivement des noms importants. Alors Genet, effectivement, tout Genet, je pense, a été publié à l'Arbalète. Et c'est important de signaler que les éditions de l'Arbalète continuent d'exister et de publier précisément ce volume. Enfin, c'est une réédition, mais une réédition augmentée d'un dossier très important. Et je crois que le dossier apporte énormément à la connaissance, justement, d'Olivier Laronde.
Oui, qu'on a complètement oublié aujourd'hui. D'ailleurs, c'est Jean Genet qui présente Olivier Laronde la ronde au directeur des éditions de l'Arbalète, Marc Barbeza, et lui dit « Voilà un très grand poète que vous allez éditer. » Et c'est ce qu'il fait. Alors, lorsqu'il publie les...
Il y a des rapports, d'ailleurs, manifestes entre la poésie de Genet, à proprement parler, ce qu'il y a de précieux dans la poésie de Genet. Je pense, par exemple, à des poèmes comme ceux du Condamné à mort et les poèmes d'Olivier Laronde. C'est pas par hasard que Genet, la première fois qu'il a entendu Laronde réciter ses poèmes, a éclaté en sanglots.
Oui, et puis il y a des définitions de la poésie chez Genet, notamment dans Notre-Dame des Fleurs, qui correspondent à ce que fait Laronde, précisément.
Préciosité.
Donc, il y a des correspondances tout à fait étonnantes.
Oui, on va écouter dans un instant la voix d'Olivier Laronde lisant l'un de ses poèmes, et puis Michel Bouquet aussi, mais juste avant, j'aurais voulu quand même dire quelques mots sur le personnage de Laronde, qui était quand même un personnage pas banal. Je sais plus, il y a des témoignages qui disent que c'était le dernier rejeton de l'illustre lignée des poètes maudits. Il faut dire qu'il était jeune, qu'il était très beau, qu'il est mort très jeune à 38 ans, 39 ans en 65,
ans,
qu'il a fini, est à la fois épileptique, opiomane, alcoolique, et il a fini comme un ivrogne dans les rues de Saint-Germain-des-Prés. C'était une sorte de révolté qui, à 15 ans de son propre chef, quitte le lycée et décide de vivre comme ça, de façon marginale.
Verlaine précisait qu'il fallait dire, en fait, les poètes absolus, ce qui est une nuance importante.
Oui, ouais. Et non maudit. Oui,
et non maudit.
C'est important, mais je crois que s'il faut dire aussi...
Et Cocteau a longtemps, lui, qu'on peut effectivement, à certains égards, aussi rapprocher de Laronde, et quelqu'un qui a toujours refusé, lui et Radiguet, cette dénomination de poète maudit, mais enfin pour d'autres raisons.
Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, on peut dire que Laronde est né coiffé, puisqu'il est né entouré autour de son berceau de fées comme Claudel, Honegger, Saint-Paul Roux. Son parrain était Ovet de Miloche, donc
le poète
lituanien, Chevalier de Lubitsch aussi. Son père était lui-même poète, c'était un original, et il était d'une grande famille, enfin une famille de la grande bourgeoisie bordelaise.
Famille du vin,
viticole, tout à fait. Donc ça explique aussi son attitude, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même derrière la vie de Laronde une grande richesse matérielle. Il possédait pas mal de choses, il a beaucoup dépensé, et il a eu une vie aussi précieuse peut-être que sa poésie, d'une autre manière.
Oui, alors poésie précieuse, on a dit aussi poésie hermétique. En tout cas, on va écouter donc d'abord Olivier Laronde lisant l'un de ses textes, et puis Michel Bouquet.
Le verbe aller, fruit de mer. Il va sans dire, une araignée de mer, ce monde autour du chef à bout de tout bras. L'eau peignée fuit son bain d'air entre deux fiefs, pour te reprendre repassant. L'univers des sables sans marche, stigmatisé de tant d'accents, par quoi dit mieux une démarche. Allez, double, un dressé gourou, tiens sur pied têtu, hors de brise riante où les fœtus brisent, au sens à front, le front sans trou.
Dans ses linges, Homère, nous nous désenlaçâmes. Ses linges orageux où préparent un lit les derniers courants d'air. À l'heure où se déplient de sombres paravents, au travers de mes larmes, saurais-je reconnaître aux cendres les contours d'un ciel d'après-dîner? Votre sel sur ma peau, l'impénétrable écorce. Ainsi qu'au froid de Tours, qu'un bel œil détourné perdrait toutes ses flèches. Mais, contre votre amant en nage sur ses linges rêches. Dans le temps où vous rentrez vos troupeaux, riche nuit, si je suis hélas d'une autre étoffe, la trame n'en est pas de vos oiseaux de mer, mais de leur froide proie ourdie. Sur ces terrasses où vous êtes à l'aise, aux nuits dans vos bains d'huile, irai-je, à chaque pas brisant des peaux de phare, défaire le jeu des ultimes barricades. Si je n'y suis cloué par de splendides races, la nuit sur son plateau verse un quartier d'étoiles, naît d'un pleur si brûlant que le gardien de phare, ce sourcilleux donjon, mère, votre amant en a.
Vous voulez dire quelque chose sur la voix?
Oui, bah, évidemment, ici on est assez sensible aux voix, par le fait même qu'on parle à la radio, mais j'étais frappée par la voix de Laronde récitant ou lisant un de ses poèmes, et par cette espèce de lyrisme maladroit qui est tout à fait différent de la lecture de Michel Bouquet.
C'est aussi le côté démodé. Enfin,
peut-être, et je pensais à Apollinaire lisant le pont Mirabeau. On a un enregistrement d'Apollinaire, enfin c'est un peu difficile, enfin ça a été enregistré en tout cas, et c'est un peu la même chose. Je me demande dans quelle mesure les poètes récitant ou lisant leurs propres œuvres n'ont pas des difficultés à sortir de leur propre lyrisme.
Pour la Ronde, le problème, c'est qu'il ne faisait rien d'autre. Il ne parlait pas en dehors de dire ses poèmes. C'est ce qu'on raconte sur lui. Il était muet, mutique, en dehors de ça.
Mais d'ailleurs, c'est très étonnant, parce que quand on écoute les poèmes, on pense vraiment... Enfin, ces poèmes, et puis ceux qu'on a l'occasion là, de lire, de relire, on pense vraiment aux mots de Proust disant que chaque grand écrivain écrit dans une langue étrangère. Mmh. Ce qui n'empêche pas que cette langue étrangère a une histoire. Et là, on voit c'est ce qui sait quelle est l'histoire de cette langue. C'est effectivement, bon, certains poètes baroques du 16e, du 17e siècle, c'est Mallarmé, c'est Valéry. Je pense aux Mallarmé des premiers poèmes, Assise la fileuse au bleu de la croisée ou le jardin mélodieux se dodeline, etc. Mmh. Et en fait, il y a cette
L'herbe des nuits croître dans l'ombre sainte.
Voilà. Mallarmé est de pure souche, a-t-on dit, à propos de l'arbre.
Non, mais c'est évident. Il y a cette même force à extraire la part de cristal du langage, en quelque sorte. Le fait que la poésie soit un langage en soi et dans toutes les langues, qui soit une manière, comme le dit lui-même Mallarmé, justement, de donner un sens plus pur aux mots de la tribu.
Oui, c'est-à-dire la création d'un langage à l'intérieur de la langue. Mais d'autre part, enfin, ce qu'il faut voir de Laronde, je pense, c'est qu'il y a un côté provocateur. D'une part, il y a un côté angoisse très forte. Enfin, il y a eu un drame dans la vie de Laronde. C'est la mort de sa sœur à l'âge de 14 ans. Il s'en est jamais remis. Et il y a une angoisse qui s'ouvre à travers tous ses poèmes. Et d'un autre côté, c'est la polysémie qui...
Il y a un jeu sur les mots.
Tout est à double, triple sens. C'est-à-dire, si un poème n'a que deux sens, c'est qu'il est médiocre, c'est ce qu'il disait. Donc le sens n'est qu'une raison comme une autre, ce sont ses propres termes. Et là, je crois qu'il faut voir, comme le fait Olivier de Magny dans le dossier, le côté échiquier du poème. C'est-à-dire c'est un échiquier à plusieurs trajectoires probables, et le fait que les mots se concertent au-delà de la contiguïté de la syntaxe.
C'est échiquier de la passion. Il y a effectivement, on parle de...
C'est une algèbre, beaucoup.
Absolument.
Plus. Absolument. Et Queneau en parle d'ailleurs.
Ces deux vers. Sur le harakiri.
Ah, c'est un vers, c'est un seul vers. C'est un jeu de mots, mais un double jeu de mots. Harakiri, souris qui pleure. Et je crois qu'on a là un petit peu sur le mode ludique.
Je pense qu'effectivement, pour ce qui est de l'essence même de la langue, ce sont les références, donc Mallarméo-Valérienne, mais il y a également un côté Cocteau et Max Jacob, il y a aussi un côté Cornéadé, il y a une sorte de fantaisie également.
Plus la provocation, parce qu'il a jeté un encrier à la tête d'un juge au moment où il était arrêté pour usage de drogue, et enfin c'est tout la ronde, quoi, ça.
Olivier Laronde, Les barricades mystérieuses, donc aux éditions de l'Arbalète, les poèmes plus un important dossier de témoignages. Jean-Pierre Dupré, à présent, un autre méconnu, un autre poète maudit ou absolu, pardon. Oui, lui aussi, il était jeune, lui aussi, il était beau, lui aussi, il mourra très jeune, à 29 ans. En 59, oui, en cependant. Alors, ce sont les éditions Christian Bourgois qui rééditent ses œuvres complètes. C'est à la fois des poèmes et puis des sortes de pièces de théâtre, enfin, plutôt des dialogues poétiques. Des textes étaient d'abord parus aux éditions du Soleil Noir, avec des illustrations de Max Ernst, de Matta, notamment. Donc, c'était aussi, à l'époque, quelqu'un qui était reconnu. Il se fait connaître d'abord d'abord en envoyant ses textes à André Breton, qui est absolument enthousiasmé, qui lui répond qu'il se battra pour les éditer. Et d'ailleurs, on trouve des textes de Jean-Pierre Dupré dans l'anthologie de l'humour noir.
Oui, tout à fait, on en trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la présence-absence de Dupré aux côtés des surréalistes. Il est là, mais il est un peu à côté, il est un peu retiré, et il se tait, et il y a une certaine distance. Et d'ailleurs, il va quitter la poésie à un moment pour se consacrer à la sculpture. Je crois qu'il faut voir les sculptures, enfin, on ne les retrouve plus, ces sculptures, mais les photographies des sculptures de Dupré, qui sont des sortes de sculptures métalliques pleines de mystères, de recoins, et qui ont ce côté oiseau aussi de son physique. Hein. Il y a un côté
oiseau de nuit,
tout à fait. Oui.
C'est vraiment un poète saturnien, pour le coup.
Moi je trouve effectivement que c'est une poésie extrêmement nocturne. Et si dans la biographie qui précède les œuvres, il est question de Rimbaud, qui a été la grande découverte de Jean-Pierre Dupré, qui lui aussi a écrit des poèmes à partir de l'âge de 16 ans et qui s'est identifié à sa manière à Rimbaud, on pense beaucoup plus à une autre filiation comme celle de Lautréamont. On pense aussi à Artaud, parce que sa poésie et sa prose sont extrêmement vociférantes, hallucinées, et extrêmement nocturnes. Oui. Ce sont souvent des visions de cauchemar, certaines visions revenant perpétuellement, comme l'horloge dont les aiguilles se plantent dans le cœur, des yeux qui sont privés de leur orbite, le sang, le meurtre, la violence. Et puis ce texte, qui est quand même un beau texte, je trouve, qui s'appelle La forêt sacrilège,
qu'on trouvait dans l'anthologie de l'humour noir.
Qui se passe dans une ambiance de sorcellerie, avec Huéline la Noire, des loups-garous, des vampires. C'est ça l'univers que décrit Dupré, essentiellement.
Des crânes aussi, dont le sien, d'ailleurs, qui est mis en scène à un moment.
Mais moi, je trouve qu'il y a un côté vociférateur, effectivement, comme Lautréamont, d'ailleurs, il y a la tour de Mortedor. La tour de Mortedor.
C'est
Artaud. J'ai déchiqueté d'Artaud, alors que Lautréamont, on l'a souvent souligné, les périodes de Lautréamont sont celles aussi de Bossuet. C'est une prose beaucoup plus sereine dans sa violence.
Mais il y a un côté biblique, je trouve, aussi, dans sa scansion, dans le contraste et dans le mélange qu'il y a dans l'imprécation. Le contraste lumière-ténèbre, vie-mort, être-néant, soleil-lune, etc. Et côté, qui es-tu ? Je suis le reflet de ton ombre quand elle se tient face à la nuit.
Côté biblique, c'est juste une phrase, c'est Julien Gras qui parlait d'une apocalypse meublée par Quirico et filmée par Buñuel.
Il parle pour certains des textes, disant, moi c'est ce que je préfère chez Dupré, mais disant lui que c'est au contraire ce qui ressemble plus à des sortes de dialogues d'outre-tombe à la Poe que lui-même, à la Edgar Poe que lui-même préférait. Alors il y a une autre filiation qui est antérieure au surréaliste, qui est une sorte de romantisme sarcastique à la Petrus Borel, qui a écrit ce lycanthrope qui est quelque chose d'une violence extraordinaire. Ouais. Et il y a ce personnage justement d'homme-loup, de lycanthrope. Les loups sont perpétuellement présents dans l'œuvre. Les serpents, les loups. Ouais. Tous ces animaux qui sont à la fois des animaux à très forte charge emblématique et des animaux de la violence, de la nuit.
C'est une poésie mythique dans un certain sens.
Oui. Et le fait aussi que beaucoup de ces textes soient écrits sous forme de dialogue, ça me semble intéressant, et que son premier texte, enfin pas le premier texte, il y a des poèmes de 46 qui sont à la fin du livre, parce que l'ordre chronologique n'est pas respecté, mais enfin peu importe, que le premier texte qu'il est envoyé à André Breton s'appelle « Derrière son double », ça me paraît assez significatif, de même que la forme dialoguée des textes, parce que c'est quelqu'un qui se voyait lui-même comme dédoublé, qui faisait dialoguer d'autres lui-même, et je pense à un de ses textes qui est ancien, puisqu'il date de 1946, qui s'appelle « Entre ma vie et moi » et qui commence ainsi, c'est une sorte de poésie en prose. « Entre ma vie et moi, il y a maintenant le froissement d'un nouveau corps inconnu et irritant qui se colle au mien, je l'appellerai réalité. » On a quand même avec Jean-Pierre Dupré quelqu'un qui devait quand même frôler la schizophrénie.
Oui, et il y a un côté, peut-être une filiation qu'on n'a pas évoquée, pour La Ronde et pour Dupré, c'est Jarry.
Et qui est cité à chaque fois.
L'éternité dans les draps noirs, mes funérailles dans la robe de cendre, par ici le grand trépaneur d'Andouille, si on ne reconnaît pas Jarry dans...
Le grand trépaneur d'Andouille qui est probablement justement la mort. Il faut dire que peu de temps avant de se suicider, Dupré avait dit à un ami au téléphone « Je suis allergique à la planète », ce qui fait tout à fait penser aux mots de Villiers de l'Isle-Adam sur son lit de mort. « On s'en souviendra de cette planète ».
Jean-Pierre Dupré, donc, les œuvres complètes aux éditions 10-18, avec une préface d'André Breton. André Ardelet, à présent, avec deux livres, un volume de ses œuvres complètes aux éditions de l'Arpenteur, et puis sur André Ardelet, l'ouvrage de Guy Darol, André Ardelet ou le don de double vie. Ben, on retrouve le double qu'on quittait avec Jean-Pierre Dupré. Alors, Ardelet.
Avec un personnage très différent.
Oui, très différent. Ardelet est beaucoup plus connu tout de même que les deux précédents, et surtout grâce à ses chansons qui ont été interprétées par Germaine Montero, par Patachou, par Guy Béard. Le plus connu, la plus connue, bien sûr, c'est Le bal chez Temporel, qu'on n'écoutera pas, parce qu'on
l'a écouté il n'y a pas très longtemps.
Donc, il faut quand même pas abuser des bonnes choses. Donc, c'est en tout cas une chanson qui avait eu le grand prix du disque en 57. Alors, il n'est pas auteur de chansons, il est auteur de poèmes, de romans, Le seuil du jardin, notamment en 1958, qui fait partie de ce premier volume. Et puis, on peut citer aussi Lourdes Lentes, un livre beaucoup plus tardif, qui date des années 70, qui avait été interdit par la
censure. C'est un roman érotique.
Pour atteinte aux bonnes mœurs. Et je ne sais plus qui. Oui, c'est Julien Gras qui avait témoigné au procès en disant que ce livre ne salissait pas les yeux.
Non, pas tout.
Pas
d'ailleurs,
ça,
on le relit. Si, je crois que c'est ça, oui. Mais en le relisant, on s'aperçoit en effet qu'il ne salit rien du tout. Au contraire, c'est un très beau livre. C'est un livre érotique, effectivement. Effectivement, il a été interdit en 73 par la commission de censure, mais on peut le trouver, tout un chacun peut le trouver dans la collection 10-18, il est tout à fait abordable. C'est un livre, effectivement, d'érotisme. Il y a cette rencontre entre Ardelet et le tout jeune Ardelet et la servante Germaine, Mémène, comme il l'appelle, qui l'initie donc au mystère de l'amour et qu'il entraîne. Enfin, Ardelet, c'est pas Ardelet, c'est Stève Masson, le peintre Stève Masson, qu'on trouve déjà dans Le seuil du jardin, qui est une sorte de double d'Ardelet. Mais il n'y a pas que ça dans ce roman. Il n'y a pas que ses relations avec une hôtesse de l'air à Amsterdam. D'ailleurs, Amsterdam, Londres, Paris, toutes ces villes qui sont une sorte de corridor du monde double, hein, dans lesquels on peut prendre comme ça une tangente. Mais il y a aussi des considérations beaucoup plus, générales sur Ardelet lui-même. Il y a l'archer zen dont la flèche se détache à l'instant précis où le vent, l'aile de l'oiseau qui passe, la lumière du jour, etc., tombe d'accord pour que le but soit atteint. Et ça, c'est une définition de sa poésie. Il y a aussi de très très belles pages sur les cerfs-volants, sur le polygone de Vincennes. À l'époque des vols interplanétaires, dit-il, les hommes viennent élever des cerfs-volants, exercice dont la splendide futilité m'émerveille. Et il y a cette relation entre l'oiseau qui est là-haut, le fil qu'on ne voit pas, et l'homme qui est en bas et qui voit au-delà de l'horizon, c'est-à-dire la mort, à travers ce cerf-volant qu'il dirige. Et puis il y a peut-être une des clés d'Ardelet. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'argot chez Ardelet? Et l'hôtesse de l'air demande, elle est anglaise, elle ne comprend pas le mot faucher, le verbe faucher, et elle lui dit pourquoi est-ce que vous parlez tellement argot, Steve? Et il répond, par pudeur. C'est une manière de se donner un coup de frein, et puis on prend l'habitude, je suis un abominable romantique.
Oui. Alors, vous parliez de ces villes, Londres, Amsterdam. Il y a beaucoup de décors de villes chez Ardelet, qui est un peu un piéton de Paris et de la banlieue, mais des villes, des décors de villes qui débouchent toujours sur autre chose, justement, sur un ailleurs, sur un passé. On va écouter André Ardelet qui parle justement de ce rôle de l'image dans son écriture.
Tout commence par une image, c'est exact. Que ce soit une image proposée par la rue, ou bien une vieille photographie, une carte postale, peu importe. Il faut d'abord que mon œil accroche quelque chose, je ne sais pas quoi du reste. Et cette image qui m'a accroché, elle s'efface. Et elle cède la place à un original. Et lorsque j'arrive à voir cet original, je passe également dans le temps où il était pris au piège. Je me souviens, c'était à la porte de Clignancourt, je partais aux courses, parce que je suis flambeur. J'étais dans un car, il devait me conduire à Enghien. Je faisais un très beau temps. Parce que le beau temps et la solitude vous aident beaucoup dans ce cas-là. Tout d'un coup, j'ai vu sur le ciel des branches et des feuilles de platane. Rien d'autre. Dieu sait que nous en avons vu. Il s'est produit en moi quelque chose. Je suis passé vraiment dans un autre temps, dans une autre dimension, dans un autre monde. Et ces simples branches et ces simples feuilles était empreinte d'une beauté vraiment indicible. Alors, lorsqu'on essaye ensuite de traduire cette beauté, ça devient très difficile. Je pense qu'il faut garder ces mots que j'appelle illuminants, c'est-à-dire des mots qui sont dans le dictionnaire, des mots que nous avons prononcés mille fois, et qu'il nous semble entendre pour la première fois tout d'un coup. Il y a dans le texte des Chasseurs d'œufs qui s'appelle Le passé indéfini, une phrase qui pourrait peut-être servir de clé. Cette phrase est celle-ci. Le narrateur rapporte des propos d'un ami qui lui a dit « Mourir, c'est se réveiller en quelqu'un d'autre qui est toujours toi. » Eh bien, je me demandais si cet original, je le rattache à un épisode d'une vie passée, ou bien si je le situe véritablement dans un monde différent, c'est tantôt l'autre, tantôt l'autre. Tout ça s'imbrique, tout ça est voisin. Je ne peux pas faire d'une discrimination précise. C'est tellement mêlé que je suis moi-même incapable de faire la discrimination.
Mais dans ces propos de Hardelet, on retrouve le titre du livre de Guy Darol, Le don de double vie. Effectivement, c'est au cœur de la démarche de Hardelet.
Oui, c'est-à-dire que dans le texte de Darol, enfin, Darol décrit un personnage qui est constamment entre deux mondes, entre le rêve et la réalité, entre l'enfance et le temps présent, et même, et là on vient de l'entendre avec ce que dit Hardelet, entre la vie antérieure et la vie présente. C'est-à-dire qu'il y a chez Hardelet l'idée, l'intuition, la croyance qu'on a déjà vécu une autre vie et qu'on se réincarne d'une certaine façon. Et ça, c'est un des thèmes qui apparaissent dans sa poésie et dans ses textes en prose. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les décors qui sont ceux d'Hardelet, ce sont les décors de la banlieue, des villes, mais des lisières de villes et des marges, et que c'est à partir de ces décors qui font penser à Douaneau, autre personnage...
Macorlan,
Douaneau qui était des amis de Hardelet, Brassens aussi, et il y a des poèmes d'André Hardelet qui font penser aussi à Brassens. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ces décors de banlieue ou du Paris des marges, ces décors aussi de guinguettes comme le bal chez Temporel, ce sont des décors qui vont être les points de départ de la rêverie. Et le passage vers un autre monde, vers un ailleurs, il va se faire à partir de ce Paris ou de cette banlieue réaliste, enfin qu'on a pu appeler populiste, réaliste, et c'est pourtant presque toujours de ce décor-là qu'on part pour arriver à une rêverie d'un ailleurs.
Oui, il y a aussi un petit peu un côté Léon-Paul Fargue, le Léon-Paul Fargue du piéton de Paris qui arpenterait les allées du Grand Môle. Enfin, il y a un univers très très particulier. Dans Le Seuil du Jardin, il y a ce vieux personnage qui s'appelle Souhem et qui veut inventer une cinémathèque onirique. Je pense que ce qui est très important aussi dans le cas de d'Hardelet, c'est justement cette sorte de réflexion permanente, on la trouve entre autres dans ce très beau texte qui s'appelle Donnez-moi le temps, sur le temps, et pour parler d'un de ses intercesseurs, dirait Baudelaire, qui est Proust, justement, il fait la différence entre lui et Proust. C'est-à-dire que chez lui, ça n'est pas une recherche du temps perdu, mais c'est le désir d'arrêter, dit-il, le fleuve d'Héraclite. C'est le désir de la recherche d'un temps suspendu.
Mmh. Oui, on l'appelait le dérailleur ou l'égareur. Hein. Et à partir de lieux tout à fait quotidiens, c'est-à-dire le bois de Vincennes, puisqu'il va se ressourcer tout le temps au bois de Vincennes, qui est son lieu de naissance. Donc. Et l'égareur, c'est, selon lui, on part en promenade avec lui, on suit un chemin familier, et tout à coup, ce chemin devient un petit sentier, on se retourne, il n'y a plus de sentier, on débouche sur une clairière qui est presque, presque semblable à celle qui devait se trouver là, et on n'est plus à l'endroit où on croyait être, on est à côté, ou on est ailleurs, on est de l'autre côté de quelque chose, et il disait, j'ai la conviction que les scènes capitales se jouent dans les coulisses et non devant la rampe. C'est-à-dire que c'est toujours un monde secret, un monde retiré, mais au milieu du quotidien.
Mais un monde qui est quand même très proche du paysage de l'enfance, parce que ce bois de Vincennes dont vous parliez et qui est une espèce d'île au trésor parce que Stevenson aussi est un des personnages qui revient chez Hardelet. Oui, mais c'est souvent le double enfant et c'est souvent le paysage de l'enfance et une nostalgie d'une époque qui n'est plus la sienne, une nostalgie justement des guinguettes, du Front populaire. Il y a cela aussi chez Hardelet et qui fait penser à toute une série de films.
Et la volonté, comme il dit,
que
le rampant discerne enfin ce qui nous échappe.
André Hardelet, les œuvres complètes, tome 1 aux éditions de L'Arpenteur et par Guy Darol, André Hardelet ou le don de double vie aux presses de la Renaissance. Et nous en resterons là pour cette première partie du panorama.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 29 novembre 1990.